Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le trou de Jackson porte assez bien son nom, excepté une fois par an, fin août, lorsque la Fed réunit chaque année depuis 1982 la fine fleur des banquiers centraux, des économistes et des universitaires intéressés par les débats sur les politiques monétaires. Un lieu devenu incontournable pour les marchés financiers, le lieu où se dessine l'avenir des politiques monétaires des plus grandes institutions. Et cette année, la Fed a décidé de marquer les esprits. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de voir comment la Fed est en train de tourner doucement, mais alors très doucement, la page de l'argent gratuit. Vous avez peut-être reconnu la musique de Rocky IV tournée en 1985, en partie à Jackson Hole. Rocky, alias Stallone, est parti s'entraîner dans la neige, à couper du bois et à courir dans le parc national du Grand Teton. Il doit se mesurer à la nouvelle terreur des rings, le russe Ivan Drago. 35 ans plus tard, à Jackson Hole toujours, la Fed se prépare aussi à un combat difficile. Alors qu'elle est parvenue depuis plus de 10 ans à mettre KO l'inflation, la question d'un changement de politique monétaire se pose outre-Atlantique. Et si la réserve fédérale devait mettre un terme à sa politique expansionniste, au tombereau de dollars déversé chaque année dans l'économie? Que se passerait-il? Comment l'économie, mais aussi comment les marchés réagiront-ils à un éventuel changement de politique? Bonjour Guillaume Benoît.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes adjoint en chef de service marché des Échos, spécialiste notamment des banques centrales. Alors d'abord, on va peut-être rappeler quel est le poids de la réserve fédérale américaine sur les marchés mondiaux.
La Fed, on peut dire que c'est la plus influente banque centrale au monde, n'en déplaise aux autres. C'est quand même la gardienne du dollar qui reste la monnaie qui est ultra dominante dans tous les échanges commerciaux et dans les réserves de change. Donc autant vous dire que chacune des actions de la Fed, de ses décisions, a des conséquences qui dépassent largement les frontières des États-Unis. Si on devait faire une formule un peu rapide, on pourrait dire que quand la Fed tousse, les marchés mondiaux attrapent la grippe.
Et depuis 40 ans, la réserve fédérale de Kansas City organise le rendez-vous de Jackson Hole pendant 48 heures avec une cinquantaine de banquiers centraux réunis au Jackson Lake Lodge avec vue sur le parc du Grand Teton et sur les montagnes environnantes. C'est un cadre bucolique. En temps normal, puisque depuis 2 ans, la réunion se fait en visioconférence, les investisseurs attendaient avec impatience le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Que s'est-il passé à Jackson Hole cette année?
Alors effectivement, ça devait être le Jackson Hole du retour à la normale. Et au dernier moment, ils ont dû l'organiser par visioconférence. Mais ça n'a quand même pas empêché Jérôme Powell de confirmer ce que tout le monde attendait finalement depuis quelques semaines. C'est que la Fed va entamer un tapering. Alors le tapering, en gros, ça veut dire que la Fed va refermer progressivement le robinet de liquidité grâce auquel elle a soutenu les marchés américains depuis le début de la crise du Covid. On parle quand même de 120 milliards de dollars qui ont été injectés chaque mois pour acheter des treasuries, la dette d'État américaine, mais aussi de la dette d'entreprise américaine.
Guillaume, pourquoi ce changement de ton de la Fed?
Pour la Fed, en fait, la situation économique s'est désormais suffisamment améliorée pour que ce soutien exceptionnel ne soit plus nécessaire. C'est une décision qui est largement partagée au sein du Conseil. Jérôme Powell l'a rappelé à Jackson Hole dans son discours en disant que lors du dernier comité de politique monétaire de la Banque centrale, qui était en juillet, il était d'avis comme la plupart des participants, que, alors à condition bien sûr que l'économie évolue comme prévu sur les mêmes rails, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs dès cette année. Donc c'était un petit peu avant ce qu'on pouvait attendre, mais voilà, la situation est là. Alors après, bien sûr, il prend toutes les précautions nécessaires, et notamment celles sur l'emploi. Il faut que le marché de l'emploi progresse, mais c'est vraiment le signe qu'on revient à la normale, qu'on sort de la crise du Covid.
Pourquoi est-ce que c'est un tournant important ?
Alors, c'est un tournant important d'abord à cause de l'influence de la Fed. Si la Fed décide que, effectivement, on est dans une situation telle qu'on peut commencer à retirer les programmes de soutien, c'est que la situation va mieux et ça peut influencer d'autres banques centrales. Et puis, c'est important pour les marchés parce que ça veut dire qu'il va falloir réapprendre à vivre sans cette perfusion de la Fed et dans une situation qui n'est pas encore complètement certaine. Hein. Il reste quelques incertitudes liées au variant Delta. Pour les États-Unis, il y a aussi les nouveaux plans d'investissement prévus par le président Joe Biden qui vont augmenter le déficit. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais qui va donc entraîner des émissions de nouvelles dettes qu'il va falloir absorber. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez, une décision qui est forte. Alors, encore une fois, hein, il y a des précautions qui ont été prises. Jérôme Powell est resté flou sur la date de début de ce tapering. D'ailleurs, on ne sait même pas quand la décision effective va être prise, si c'est en septembre, si c'est en décembre. Et puis, ils vont y aller très progressivement. C'est-à-dire que on s'attend à une réduction des achats entre 10 et 15 milliards de dollars par mois. Donc, ça veut dire que, à peu près le premier mois de tapering, il y aura encore entre 105 et 110 milliards d'achats, etc., etc. Donc, ça ne va pas être un choc, mais c'est quand même un signal très très important qui est envoyé.
Oui, on sent bien que la Fed marche un petit peu sur les œufs, notamment en prononçant ce mot de tapering. C'est un nom qu'on risque d'entendre assez souvent dans les commentaires sur les marchés financiers. C'est un exercice compliqué ?
Oui, en fait, c'est surtout qu'il y a un précédent qui effraie un petit peu tout le monde, notamment au sein de la Fed, qui date de 2013. Donc, on sortait progressivement de la crise de 2008. Et c'est là que la Fed avait commencé, c'est à l'occasion de cette crise que la Fed avait commencé ce programme dit de QE, d'achat d'actifs, qui avait fortement aidé les marchés à reprendre pied. Et le président de la Fed, à l'époque, avait annoncé que la Fed allait réduire son programme d'achat puisque la situation s'était améliorée et de façon assez brutale. Et les marchés n'étaient pas prêts pour ça. Du coup, la réponse a été immédiate. Il y a eu des mouvements de vente massifs sur les marchés obligataires, puisque c'était les obligations qui étaient achetées par la Fed. Et ce mouvement de vente massive a fait bondir partout dans le monde les coûts d'emprunt des États. Donc, c'était une assez belle catastrophe. Et donc, cet exemple de Ben Bernanke est un peu l'épouvantail pour toutes les banques centrales qui, elles aussi, ont lancé des programmes de QE.
Et les programmes de QE, on va le rappeler, c'est le quantitative easing et donc le programme de rachat d'actifs initié par les banques centrales pour soutenir leur économie en temps de crise. Le tapering, c'est donc la diminution des flux d'achat des banques centrales. Mais Guillaume, c'est pas forcément synonyme de hausse des taux de la Fed ?
Non, et puis c'est deux choses qui sont un tout petit peu différentes. En fait, le tapering concerne donc le programme d'achat qui a vraiment été mis en place pour contrer les effets du Covid. Pour ce qui est de la hausse des taux, elle est plus focalisée sur le mandat de la Fed, c'est-à-dire à la fois un retour au plein emploi, qui est également fonction de l'inflation. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué. L'année dernière, à Jackson Hole, Jerome Powell avait déjà fait sensation en expliquant que la Fed allait changer sa cible d'inflation. C'est-à-dire que maintenant, la cible d'inflation de la Fed, c'est toujours 2%, mais en fait, elle est flexible. C'est-à-dire que la Banque centrale est prête à laisser l'inflation dépasser son objectif un certain temps, et dans une certaine mesure, pour compenser toute la période où l'inflation était vraiment en dessous de l'objectif. Là, l'inflation américaine tourne autour de 5%, ce qui est très très largement au-dessus, et pourtant, la Fed ne remonte pas ses taux. Et donc, c'est seulement quand elle estimera que les niveaux d'attente d'inflation et de l'inflation vraiment réelle, qui n'est pas liée à des effets de reprise, de manque de matières premières, etc., et sur les bons rails, qu'elle commencera à monter ses taux. Et donc, a priori, c'est pas pour tout de suite.
Les marchés ne sont pas tombés dans le trou après le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Il y avait eu déjà un premier avertissement pendant l'été lors du comité de politique monétaire de la Fed en juillet. Comment les marchés avaient réagi à ce moment-là ?
En fait, on sentait en juillet que la Fed était plutôt dans dans cette réflexion-là, mais ce qui a vraiment fait peur au marché, c'est la publication de ce qu'on appelle les minutes. Les minutes, c'est le compte-rendu résumé de la réunion de la Fed. Donc, le compte-rendu de la réunion de juillet a été publié le 19 août. Et là, effectivement, était clairement évoquée l'idée que l'amélioration de la situation économique semblait justifier, effectivement, dès cette année, un resserrement monétaire via ce tapering. Et là, bon, les marchés ne s'attendaient pas forcément à ce qu'une annonce aussi forte soit faite, surtout en plein été, et ça a fait dévisser les bourses mondiales et particulièrement les bourses européennes. Bon, elles se sont remises un peu, le temps de digérer l'information. Mais voilà, c'était en même temps un peu cette politique de la Fed de télégraphier son QE pour éviter un tapering trop violent. Voilà, on commence, on publie les minutes, on signale le mouvement, on confirme à Jackson Hole. On va attendre, peut-être que la réunion de septembre, ils confirmeront qu'ils sont en train de réfléchir à comment ils vont faire, et puis ce sera en novembre que la décision sera prise. Voilà, encore une fois, une volonté de faire les choses extrêmement progressivement.
Ouais, ça fait un sacré teasing, hein, pour reprendre un terme anglais, là aussi, pour préparer les annonces aux investisseurs, pour éviter de les prendre de court. Il y a une question qu'on se pose dans la suite de ce discours de la Fed, ou de ce changement de ton de la Fed, c'est que va faire la Banque Centrale Européenne, Guillaume ?
Alors, du côté de la Banque Centrale Européenne, pour l'instant, on reste sur une ligne extrêmement accommodante, c'est-à-dire en faveur d'un soutien à l'économie. La situation américaine et la situation européenne ne sont pas exactement les mêmes. La reprise n'a pas été aussi forte. L'inflation redécolle, mais on n'a pas encore de mouvement aussi fort qu'aux États-Unis. Donc, a priori, les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre le Covid, c'est-à-dire le programme d'urgence qui s'appelle le PEPP avec une enveloppe de 1850 milliards d'euros, devrait se poursuivre jusqu'au moins mars prochain, qui est la date à laquelle il pourrait s'arrêter. Après, depuis quelques jours, on sent qu'il y a une certaine pression. L'inflation européenne est quand même assez forte. Alors là aussi, a priori liée à des effets un peu passagers, c'est-à-dire descendre en début d'année prochaine, mais elle a atteint 3% et on sent que les faucons de la BCE, c'est-à-dire les membres de la BCE qui sont les plus partisans de l'orthodoxie monétaire, sont en train de se mobiliser pour dire voilà, le programme devra s'arrêter. Le patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, a rappelé que le P de PEPP, c'était pandémique et pas permanent. C'est-à-dire vraiment, voilà, pour dire, on est sur un programme qui est un programme exceptionnel qui doit s'arrêter. Pour l'instant, ça ne devrait pas être immédiat. La réunion qui va se tenir le 9 septembre, prochaine réunion de la BCE, sera l'occasion de revoir à la fois les perspectives pour la croissance et pour l'inflation établies par les économistes de la Banque centrale. C'est là que des décisions pourraient être prises. Ce qui pourrait se passer, c'est que la BCE décide de réduire un tout petit peu le rythme de ses achats. C'est-à-dire que là, face à une hausse des taux d'intérêt d'État en début d'année, elle avait décidé d'acheter un petit peu plus chaque semaine de titres via le PEPP. Elle pourrait réduire, mais même ça, c'est pas complètement sûr. Le sujet sera peut-être mis sur la table, en tout cas, mais on devrait pas avoir d'annonce officielle de réduction de soutien avant mars. Et puis, même si le PEPP s'arrête, il y a l'autre programme d'achat d'actifs qui restera et qui sera peut-être un peu transformé. Donc, on reste quand même dans une démarche un peu moins dynamique de réduction de la part de la BCE. C'est un peu une exception. De plus en plus, les banques centrales dans le monde, là, sont en train de réduire leur soutien. Mais voilà, du côté européen, on veut vraiment être sûr que l'économie a retrouvé sa trajectoire d'avant la crise du Covid, avant de prendre des décisions trop engageantes. I've been going federal fed, might pop me a mid, then burn up a head.
He know he not about that life, it's fucked that little nigga, and I meant what I said. Un dernier mot, Jerome Powell a été nommé en février 2018 par Donald Trump à la tête de la Fed. Son mandat va prendre fin en février prochain. On en saura plus sur son avenir après la fête du travail aux États-Unis le 6 septembre. Ça peut avoir une incidence sur les annonces à venir de la Fed ?
Oui, alors effectivement, on s'attend à ce que Joe Biden communique son intention sur la nomination du futur président de la Fed après la fête du travail. C'est un peu compliqué. Jerome Powell est un républicain. Il a été nommé par Trump. Donc, a priori, c'est pas l'homme le mieux placé pour mettre en musique, côté Fed, la politique souhaitée par Joe Biden. Après, la Fed est indépendante. Et Jerome Powell a montré aussi qu'il était capable de réagir de façon satisfaisante quand l'économie a commencé à dévisser face au Covid. Il a des soutiens aussi, et notamment un qui n'est pas des moindres, celui de Janet Yellen, qui l'avait précédé à la Fed et qui est maintenant secrétaire mystère au trésor. Mais dans le camp démocrate, il y a aussi plusieurs personnes qui poussent pour que on remplace le président de la Fed et notamment une candidate très très sérieuse est Leigh Brainard, qui fait partie des gouverneurs de la Fed et qui elle est une démocrate et qui a conseillé Bill Clinton, Barack Obama et qui a une attitude beaucoup plus sociale dans sa vision de la politique que doit avoir la Banque centrale et une ligne un peu plus dure aussi sur la réglementation bancaire. Donc c'est entre ces deux-là que ça va se jouer. On peut quand même penser que Joe Biden choisira de la continuité parce qu'on est encore dans une situation un peu incertaine, parce qu'il faut déboucler ce programme d'achat, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc bon, on verra. Pour l'instant, ce serait peut-être un duo avec Powell à la tête de la Fed et Brainard qui prendrait la réglementation bancaire, c'est ce qui se chuchote ces derniers jours. En tout cas, ce sera une décision importante.
Le 19 août dernier, les bourses ont connu un coup de mou, au lendemain de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, mettant un frein, un court instant, à la course au record de Wall Street ou même de la Bourse de Paris. Pas de quoi gâcher pour autant l'année boursière, mais un avertissement pour les investisseurs. Le lendemain, j'ai reçu une note d'un stratégiste d'une société de gestion suisse, Pictet AM. Le titre « Accroche-toi au pinceau ». J'enlève la Fed. Un bel hommage au regretté Gottlieb et à cette histoire drôle et loufoque, l'histoire de ce fou qui repeint le plafond juché sur une échelle. Un autre fou arrive et lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Frédéric Rollin, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Alors il faudrait être fou pour enlever la Fed ?
Oui, je crois que les marchés aujourd'hui comptent sur la réserve fédérale. Alors les marchés sont d'accord pour que la Réserve fédérale retire progressivement sa politique monétaire, une politique monétaire de crise liée à la pandémie. La pandémie reculant, il est naturel de retirer progressivement sa politique monétaire, mais les marchés ont besoin que la Banque centrale américaine le fasse très très progressivement. C'est vrai que l'économie américaine est malgré tout déjà en train de ralentir un petit peu, et puis les marchés actions sont quand même sur des niveaux aujourd'hui plutôt élevé, soutenu par la Banque centrale. Et si on enlève d'un seul coup le soutien, eh bien, ces marchés-là pourraient bien tomber de leur échelle.
Est-ce que la Fed a d'autres choix que de réduire aujourd'hui le débit du robinet qui déverse des liquidités sur l'économie américaine ?
Alors, la Fed devra probablement le faire. Malgré tout, c'est une Fed aujourd'hui qui, à juste raison, n'est pas si pressée que ça. Alors, on pourrait dire, mais attention, l'inflation est en train de remonter assez fortement. Ce que pense Jérôme Powell et ce que pensent beaucoup d'analystes de marché, beaucoup de stratégistes, dont nous d'ailleurs chez Pictet Asset Management, eh bien, c'est que, eh bien, l'inflation est un phénomène tout simplement temporaire, que l'inflation va reculer et qu'au fond, la Fed, du coup, n'est pas pressée de resserrer sa politique monétaire. Donc, elle n'a pas le choix de la resserrer à un moment donné ou à un autre, mais elle a le choix quand même de le faire très progressivement.
Aux États-Unis, les prix à de la consommation ont quand même augmenté de plus de 5% en un an. C'est lié aux perturbations par le Covid des chaînes d'approvisionnement dans le monde. On voit notamment avec les puces électroniques, ça entraîne des risques de hausse de prix. Ça veut dire que ça sera temporaire ?
Alors, si les économistes font des calculs un petit peu plus précis, des analyses précises sur l'inflation, on s'aperçoit que si on retire ce que l'on peut estimer comme étant temporaire, donc typiquement tout ce qui est lié aux problèmes de transport, aux voitures usagées dont les prix ont fortement augmenté, eh bien l'inflation, en dehors de ces facteurs-là, qui sont très très directement liés à l'épidémie, serait plutôt de l'ordre de 2% ou un petit peu plus. Donc au fond, l'essentiel de cette hausse de l'inflation nous paraît aujourd'hui lié à l'épidémie. Et si cette épidémie finit par être vaincue, ou en tout cas grandement refoulé par les vaccins, eh bien cette inflation devrait commencer à reculer progressivement, dès l'automne.
Il y avait des problèmes pour certaines entreprises à trouver de la main-d'œuvre aussi aux États-Unis. Le président leur avait dit « vous n'avez qu'à les augmenter, vous verrez que vous en trouverez plus facilement ». Je schématise, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore d'impact là aussi sur l'inflation ?
Alors, l'inflation va se réduire progressivement, mais très progressivement, malgré tout, parce que va y avoir quand même une certaine persistance. Et cette persistance, elle va être due au fait que les entreprises sont aujourd'hui obligées de monter les salaires. Obligées de monter les salaires parce qu'il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre, mais ça devrait rapidement se résorber. Et puis, augmenter les salaires aussi parce que, eh bien, les négociations salariales, souvent, sont le reflet de l'inflation de l'année passée. L'inflation 2021 aura été plutôt forte et donc, eh bien, les hausses salariales à partir de maintenant devront être plutôt élevées, mais au fond quand même moins élevées que le niveau de l'inflation. On voit aujourd'hui que les salaires augmentent plus rapidement aux États-Unis, mais moins vite que l'inflation. Et donc, le pouvoir d'achat des ménages est plutôt en train de se réduire. Et ça, in fine, c'est plutôt un effet désinflationniste. Donc, ça nourrit encore l'idée que l'inflation va se résorber progressivement, mais va se résorber très probablement aussi.
Du pouvoir d'achat qui diminue pour les Américains, qui sont, on va dire, l'un des piliers de la croissance américaine, de cette forte croissance depuis de nombreuses années maintenant. On voit que l'économie américaine se porte mieux, même si elle ralentit un peu. L'orage du Covid n'a pas quand même disparu dans le monde. C'est un risque calculé, là aussi, que prend Jérôme Powell en annonçant un changement, une inflexion de la politique monétaire ?
Oui, je pense que aujourd'hui, le sentiment, c'est que les économies vont atterrir, mais que l'épidémie va se résorber. Et très clairement, du coup, Jérôme Powell pourra à ce moment-là resserrer sa politique monétaire. Mais attention, ce qu'on a vu, c'est un président de la Banque centrale américaine très attentif à l'actualité, très attentif à ce qui se passe, très attentif aux chiffres d'emploi américains qui, au fond, ont été plutôt solides, mais pas si solide que ça, pas aussi fort qu'on aurait pu l'espérer. Donc le chiffre de vendredi va être très très important. Et puis aussi un président qui observe l'évolution du variant Delta et qui constate finalement que l'épidémie est un petit peu plus prégnante sur l'économie qu'il n'était prévu en début d'année et qui en tiendra compte hein, si jamais on voit que l'épidémie ne recule pas autant qu'espéré.
La Fed est toujours sur son échelle, mais on sent bien que le fou approche pour la lui retirer. Est-ce que ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'argent gratuit ?
Alors, nous, on pense que les taux vont quand même rester plutôt bas, tout simplement parce que les politiques monétaires vont quand même rester plutôt accommodantes, voire très accommodantes dans le monde. Quand on dit que la Banque centrale américaine commence à resserrer sa politique monétaire, elle le fait très doucement et au fond, elle continue d'apporter des liquidités assez importantes à des économies qui, dans d'autres configurations, n'en auraient peut-être pas aussi besoin que ça. On a la Banque Centrale Européenne qui continue d'apporter des liquidités aussi de façon assez importante. Et puis enfin, on a la Banque Centrale Chinoise, dont on parle peut-être pas assez, mais qui a fortement resserré sa politique monétaire dans les mois passés et qui commence aujourd'hui à montrer des signes d'assouplissement. Donc au fond, un contexte de liquidité mondiale qui va rester plutôt positif, donc des taux qui vont peut-être remonter un petit peu, mais avec des liquidités mondiales plutôt positives et une inflation qui va démontrer qu'elle ne peut pas remonter durablement, eh bien les taux quand même devraient rester bas encore longtemps. Alors l'argent, pas gratuit, mais peut-être pas encore très cher avant longtemps.
On sent bien tout de même que l'économie américaine, les économies européennes ou même chinoises ont encore besoin de ces banques centrales face à des États et des pays qui sortent finalement très endettés de la crise sanitaire.
Oui, on aura in fine, effectivement, avec cette crise, une hausse très très importante hein, de l'endettement des entreprises, de l'endettement des gouvernements. Donc ça, cette solution qui a été trouvée va créer des problèmes à plus long terme. Il va falloir rembourser cette dette et je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, au fond, les banques centrales ne sont pas si effrayées que ça par la résurgence de l'inflation. Après tout, une inflation contrôlée, mais au-dessus de 2% en Europe ou aux États-Unis, permettrait de résorber progressivement la dette contractée par les États, des États qui empruntent autour de 1% dans le monde et qui auraient à la fois de la croissance et une inflation supérieure à 2%, donc qui, au fond, pourraient se désendetter naturellement.
Merci Frédéric Grolin de Pictet AM et merci Guillaume Benoît du service marché des Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.